le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et cette semaine, c'est Jean-Marie Haribé qui nous donne les clés de l'écho. Salut Jean-Marie.
Bonjour, bonjour.
Tu es économiste, maître de conférences honoraires en économie. On t'écoute.
Bon, eh bien, je vais essayer de compléter, de poursuivre la chronique précédente que j'avais faite le mois dernier, où les auditeurs se souviennent peut-être, je montrais qu'il y avait un renouveau considérable de la discussion sur ce qui est appelé maintenant la post-croissance, c'est-à-dire aller au-delà de l'éternelle croissance économique, c'est-à-dire aller au-delà du capitalisme, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, je voudrais vous exposer le résultat d'une étude que je considère comme fondamentale, qui est parue aux États-Unis dans les semaines précédentes. Peut-être certains s'en souviennent ou le savent, l'économiste américain William Nordhaus s'était rendu célèbre en affirmant en 1992, donc ça fait déjà plus de 30 ans, qu'un réchauffement du climat de 3 degrés Celsius serait optimal pour la planète et pour les humains. Et son modèle, qu'il avait appelé Dynamic Integrated Climate Economy, postulait que le progrès technique permettrait de substituer du capital aux ressources naturelles épuisées et que, de toute façon, le coût de la réduction des gaz à effet de serre serait bien supérieur aux bénéfices qu'on pouvait en attendre. Alors, cette vision, qui a été popularisée dans toute la littérature dominante, est celle qui inspire les conceptions de la soutenabilité qu'on appelle faible du développement et conception aussi de la croissance dite verte. Et bien sûr, elle a dès le départ fait l'objet de critiques décisives de la part des écologistes et puis de certains économistes hétérodoxes, dont moi. Aujourd'hui, c'est de l'intérieur même de la citadelle de la pensée dominante que se forge la critique. Une étude du National Bureau of Economic Research, le NBER aux États-Unis, menée par deux universitaires, Adrien Bidal de l'Université de Harvard et Diego Kensig de l'Université Northwestern, évalue l'impact mondial et sur le plan global, donc macroéconomique, du changement climatique. Alors, ils contestent les évaluations traditionnelles, chiffrant à hauteur de simplement 1 à 3% la réduction de la production mondiale à cause d'une hausse éventuelle de 1 degré Celsius de la température mondiale. Et eux, ils aboutissent à des impacts 6 fois plus importants, c'est-à-dire au lieu de 3% maxi, 6 fois 3, 12, 12% du produit mondial que l'on aurait en moins au bout de simplement 6 ans d'élévation de cette température. Et les auteurs parviennent à cette évaluation parce qu'ils étudient l'impact d'une hausse de la température moyenne mondiale au lieu de celui des hausses de température locales, c'est-à-dire dans un pays donné ou dans une région donnée. Je les cite, ils disent, étant donné que les événements climatiques extrêmes, les températures, les vitesses de vent et les précipitations extrêmes, sont connus pour causer des dommages économiques, l'effet différentiel des chocs de température mondiaux par rapport aux chocs de température locaux sur les événements climatiques extrêmes peut expliquer les effets économiques beaucoup plus importants des chocs de température mondiaux. Et alors, ils anticipent dans leur étude ce qui se passerait donc si l'élévation de la température atteignait plus de 2 degrés Celsius, voire plus 3 degrés Celsius à la fin du siècle. Dans ce dernier cas, à cause des effets cumulatifs, le produit brut mondial baisserait de 50% par rapport à ce qu'il aurait été sans changement du climat. Et mesuré en termes de bien-être, l'impact de ce changement climatique serait considérable, même en ne prenant en compte que la consommation, qui baisserait autant que la production. L'impact serait comparable, et je les cite, à celui d'une guerre majeure, disent-ils, et qui durerait toujours. Parmi les facteurs qui expliquent donc la perte de production et de bien-être, il y a, selon eux, l'augmentation considérable du coût social du carbone qui serait de l'ordre de 1 050 $ par tonne de CO2. Donc 6 fois supérieur à la limite supérieure des estimations habituelles. Et si la température augmentait de 5 degrés Celsius en 2100, la perte de bien-être atteindrait plus de 60%. Donc la croissance économique éternelle est un rêve capitaliste qui est en train de s'achever. Mais sans bifurcation et ouverture urgente d'une transition, le réveil risquerait d'être brutal. Malheureusement, l'attitude adoptée par les gouvernements, surtout en Europe, par la Commission européenne, elle-même, qui est de ralentir les efforts, voire de les annuler en faveur de la transition écologique. Et aux États-Unis, l'hypothèque Trump est encore pire. De ce fait, les propositions de la droite et de l'extrême droite sont mortifères pour la préservation des écosystèmes, sans parler de la préservation du bien-être humain. Et cela rend sans doute encore plus crucial l'union des forces populaires pour que la transition écologique soit sociale, c'est-à-dire qu'ils prennent à bras le corps la question du travail, la question de sa condition et la question de ses finalités. L'économie dite punitive n'est pas le fait des partisans de la transition, mais bien le fait de ceux qui s'expriment ainsi. Et hélas, la punition risque d'être sévère et elle viendra surtout du déni du danger productiviste. Merci beaucoup.
Merci Jean-Marie, merci à toi pour cette chronique. J'ai cru voir que tu sortais un livre cet été, le 14 août, En quête de valeur, avec un S entre parenthèses. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, je ne peux rien cacher. je m'étais donné encore quelques temps pour l'annoncer, parce qu'il n'est pas encore en librairie, donc ce n'est pas la peine de faire saliver les gens qui certainement se seraient précipités immédiatement dans la librairie.
Il faudra attendre le 14 août. Merci beaucoup Jean-Marie, à bientôt.
Voilà, oui, mais ça ne sera pas un livre à lire sur la plage, parce que ça, sur la plage tout s'envole.
Merci Jean-Marie.